Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, le club de la presse de Radio Orient, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière, ancienne candidate à l'élection présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir.
Avant d'évoquer la conférence de presse de François Hollande, j'aimerais revenir avec vous, Nathalie Arthaud, sur les grandes manifestations syndicales qui ont eu lieu mercredi en Europe, des manifestations et des grèves contre l'austérité, comme en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce et en France. Ce sont les premières manifestations du genre. Vous qui êtes une révolutionnaire, est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants politiques, notamment l'Allemagne, vont finir par tenir compte de ce mécontentement populaire ou bien vont-ils continuer à appliquer les mêmes recettes pour faire face à la crise ?
Enfin, les dirigeants politiques, réduire les dirigeants politiques à Angela Merkel, je pense que c'est quand même un raccourci. Et par ailleurs, je pense que les véritables dirigeants aujourd'hui de l'économie, de la société, c'est d'abord et avant tout ce grand patronat qui d'ailleurs traite les travailleurs de la même façon qu'ils soient espagnols, grecs ou français. Quand on regarde comment Renault est en train d'imposer des sacrifices aux travailleurs espagnols, mais parce qu'il en a imposé aux travailleurs roumains déjà, eh bien, on comprend bien que c'est en réalité eux qui font la politique, et c'est eux qui font nos vies. C'est le grand patronat, ce sont ces grandes entreprises, d'abord et avant tout. Alors, comment faire pour se défendre face à leur rapacité toujours plus importante ? Ben oui, moi je crois que c'est en s'organisant, en manifestant, en faisant grève, c'est en jouant sur un rapport de force. Et la seule force, vous savez, des travailleurs, c'est effectivement leur nombre. Et moi, ce que je trouvais important, effectivement, mercredi, c'était de montrer que les travailleurs, à l'échelle de toute l'Europe, avaient un sort commun et devaient finalement se battre ensemble contre, en réalité, les mêmes responsables, contre les mêmes ennemis, justement, ce grand patronat. Et la seule façon, effectivement, d'arriver à imposer nos intérêts, c'est que cette mobilisation se renforce, monte.
Alors pour que cette mobilisation se renforce aussi, il faudrait peut-être aussi que les Français comprennent ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, on a l'impression en tout cas qu'en France, il n'y a pas véritablement de mouvement contre cette austérité. Ça reste quand même très timide, Nathalie Arthaud.
C'est vrai, c'est timide, c'est trop timide. Moi je crois que c'est aussi trop timide du côté, y compris des responsables syndicaux, des confédérations syndicales. Hein, je crois qu'il faudrait aussi qu'elles montrent, qu'elles ont envie de se battre, véritablement, contre l'austérité qui est imposée ici par le gouvernement Hollande Hérault. Il faudrait aussi qu'ils montrent la voie. Et tout de même, c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. On a entendu depuis maintenant des semaines, en fait des mois, la propagande patronale. On l'a entendu dire. Alors,
vous faites allusion aux pigeons, aux patrons du CAC 40 ensuite,
oui, aux pigeons.
Qui ont adressé un ultimatum au gouvernement pour baisser le coût du travail. C'est à cela que vous faites allusion ?
Oui, c'est ça, cette propagande patronale qui nous explique qu'ils sont pris à la gorge, qu'il y a un gros problème de compétitivité et donc évidemment du coût du travail, parce que c'est toujours ça pour eux. Et donc il faut forcément que les travailleurs acceptent de reculer. Accepte des baisses de salaire, accepte de travailler plus, etc. Donc cette propagande patronale, on nous la sert du matin jusqu'au soir. Et on ne peut que constater que face à cette propagande, il n'y a quand même pas véritablement de contestation, y compris en parole. On ne les entend quand même pas beaucoup aujourd'hui. Les responsables syndicaux, à gauche, n'en parlons pas, puisque de toute façon le gouvernement fait la même politique. Fait cette politique-là, va dans le sens du patronat.
Vous ne faites pas de différence entre Nicolas Sarkozy et François Hollande sur cette question de l'austérité ?
Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que Hollande a repris le programme de Nicolas Sarkozy. Hollande a repris le programme de Nicolas Sarkozy. Alors, pour juste conclure sur ce qu'on disait, ça ne peut évidemment pas encourager et contribuer à ce que les travailleurs se mobilisent et se battent pour leur dû, tout ça. Vous voyez, quand des gens prétendent représenter les intérêts des travailleurs, finalement passent ou sont dans l'autre camp, force est de constater que le combat est plus difficile.
Là, vous faites allusion à qui précisément ? Au Parti Socialiste ?
Alors, il y a évidemment le Parti Socialiste qui aujourd'hui, effectivement, donne les coups, et tout ça, c'est aussi facteur quand même de désillusion, de démoralisation, patrons, pour l'ensemble des travailleurs, je crois. Donc ça joue aussi dans la situation, évidemment. Et oui, moi je pense vraiment que le gouvernement Hollande reprend le programme de Sarkozy. Regardez l'augmentation de la TVA.
Alors c'est pas tout à fait la même chose, puisque la TVA sociale devait être beaucoup plus forte que l'augmentation de la TVA qui est proposée par François Hollande.
Oui,
il y a aussi une baisse sur les produits de première nécessité,
non,
Nathalie
Arthaud. Il y a 4 milliards de différence. Et Hollande, c'est héros, qui s'est même vanté de faire deux fois mieux que Nicolas Sarkozy, en mettant sur la table non pas 10 milliards, comme le faisait Nicolas Sarkozy avec la TVA sociale, mais 20 milliards. Parce qu'en plus de l'augmentation de la TVA, il y aura aussi 10 milliards de réduction des dépenses publiques. La réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire des coupes dans la santé, des coupes pour les collectivités locales, ça veut dire des restrictions pour tout ce qui est travaux sur les transports en commun, par exemple. Tout ça, c'était le programme de la droite et c'est mis en œuvre par le gouvernement socialiste aujourd'hui, au pouvoir. Voilà, donc oui, moi je pense qu'ils reprennent ce programme-là. Quand on entend Hollande nous expliquer qu'il a tout fait pour le pouvoir d'achat des travailleurs, mais attendez, c'est une blague. C'est une blague, on l'a vu augmenter le SMIC de 2%. Le SMIC de 2%, alors que 1100 euros net, c'est notoirement insuffisant.
Mais ça reste insuffisant, mais il a fait mieux que Nicolas Sarkozy tout de même.
Mais même sur ce terrain-là, même pas. Il a donné ce qui était légal, tout simplement, et c'est largement insuffisant. Rien que cette toute petite augmentation du SMIC, elle montrait que ce gouvernement n'était pas dans le camp finalement des travailleurs. Et puis on l'a vu après, on l'a vu quand même faire payer aux travailleurs aussi la défiscalisation des heures supplémentaires. Parce que quand aujourd'hui des travailleurs...
Là vous avez le même discours que la droite. Là.
Non mais...
C'est exactement pareil que l'UMP.
Non parce que justement, moi je trouvais normal... Je trouvais absolument normal de revenir sur la défiscalisation, c'est-à-dire de quand même
le bouclier fiscal,
de mettre fin à cette anomalie qui consistait à ce que ça revienne moins cher au patronat de payer une heure supplémentaire que d'embaucher. Donc il fallait mettre fin à cette anomalie. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce que je conteste, c'est qu'on les fait payer. Aux travailleurs, à ces travailleurs qui se sont retrouvés avec 80 euros de moins sur leur fiche de paye, avec 120 euros de moins. Moi, ce que je pense, c'est qu'on aurait dû effectivement les défiscaliser, mais en demandant au patronat de compenser, et que les travailleurs se retrouvent avec le même salaire net. Le même salaire net, parce que, écoutez, ces heures supplémentaires, c'est quand même pour arranger les patrons. C'est leur flexibilité. Donc, il fallait absolument, effectivement, que le gouvernement fasse compenser ces heures supplémentaires. Ça, il ne l'a pas fait.
Mais ce que dit le PS et le gouvernement, c'est que ces heures supplémentaires nuisent aussi à l'embauche. C'est-à-dire qu'en faisant travailler les gens plus longtemps dans la semaine, vous n'embauchez plus.
Mais bien sûr, mais moi aussi, je dénonce le fait que dans une période, dans une situation où il y a 3 millions de chômeurs officiels, en réalité 5 millions et demi, peut-être même 6 millions, je conteste l'idée que on pousse et on oblige les travailleurs à faire des heures supplémentaires. Mais pourquoi cette situation-là? Parce que les salaires sont tellement petits, sont tellement minables, et permettent pas de vivre dignement et de faire face à toutes les dépenses, que bien des travailleurs sont obligés d'en faire. Et vous savez, y compris, c'est dans beaucoup de petites entreprises que ça se passe, parce que dans ces petites entreprises, ils ne sont pas passés aux 35 heures, ils sont restés aux 39 heures, et les travailleurs n'ont même pas eu le choix que de travailler 35 heures, en réalité. Donc c'est souvent aussi des heures supplémentaires qui ont été, en réalité, imposées. Alors voilà, moi, ce que je pense sur le fond dans cette histoire-là, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas d'heures supplémentaires et qu'il faudrait qu'il y ait une augmentation de salaire. Voilà, que dans cette période où il y a un chômage qui monte et qui touche toutes les familles et qui est un fléau pour toute la société, il faudrait effectivement qu'il n'y ait pas d'heures supplémentaires et qu'il y ait des augmentations de salaire qui permettent de vivre. Moi, je pense que le SMIC, il faudrait le monter à 1700 euros et il faudrait évidemment des embauches parce que, excusez-moi, mais y compris dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on charge on charge la mule, comme on dit. C'est-à-dire qu'on demande à ceux qui sont au boulot d'en faire toujours plus, de faire le travail de deux, de faire des heures, etc. Eh bien, il faut absolument obligés à embaucher.
Alors, vous demandez des augmentations de salaire. Je pense que vous avez peut-être vu la une du Parisien jeudi qui pose la question, va-t-il falloir baisser les salaires? C'est apparemment ce qu'est en train de demander Renault, ce que demandent certaines sociétés à leurs salariés. On baisse vos salaires et en échange, on garde vos emplois. C'est quelque chose que vous refusez?
Bien sûr, c'est révoltant.
C'est révoltant. C'est ce qui est en train de se passer dans d'autres pays européens.
C'est justement cette propagande que je dénonçais tout à l'heure. Baisser les salaires pour soi-disant protéger l'emploi, mais c'est pas ça. C'est baisser les salaires pour augmenter les profits, pour les préserver.
Les dividendes aux actionnaires.
Mais bien sûr, c'est uniquement pour cela. C'est uniquement pour cela et ça préservera en rien l'emploi. Ça, c'est pas vrai. Vous savez, ces accords-là, ils ont été tentés à Bosch, à Vénissieux, à Continental, à Clairoy, et à chaque fois, ça a été en réalité des licenciements qui ont été à la clé. Tout ça, ça ne garantit rien. La seule et puis c'est absolument inacceptable, tout simplement, parce que vous allez baisser quoi? Vous allez baisser un salaire de 1 300 € net? Vous allez baisser un salaire de 1 100 €? Écoutez, je vois pas comment. Comment peut-on vivre avec ça? Non. Pour qu'un salaire mérite le nom de salaire, il faut qu'il soit au niveau nécessaire, vital pour vivre. Et le minimum, ça serait effectivement d'augmenter, y compris le SMIC. Alors bon, c'est absolument inadmissible. Et ce sont des attaques, des attaques, effectivement. Dans cette période de crise, y compris ces grandes entreprises, elles n'acceptent pas de perdre ne serait-ce qu'un peu de profit, qu'un peu de dividendes. Ils n'acceptent pas ça. Rendez-vous compte, dans cette année-là encore, en pleine crise, les entreprises du CAC 40 ont garanti 5% d'augmentation sur les dividendes. Là, cette année-là. Et ce sont les mêmes, justement. C'est Renault, c'est Peugeot, c'est Michelin qui vont expliquer aux travailleurs qu'il faut absolument qu'ils baissent leur salaire. Écoutez, c'est inacceptable ça. Moi, j'appelle. Alors, en plus, on nous sert ça en nous expliquant que ça sera des accords de compétitivité, que c'est un pacte de compétitivité, que c'est un pacte de confiance. Enfin, non, c'est pas ça. C'est la lutte de classe. Voilà comment ça s'appelle.
La lutte des classes n'est toujours pas terminée, contrairement à ce que disait Fleur Pellerin récemment à propos des petites entreprises. Elle disait qu'on ne pouvait pas parler de lutte des classes dans les petites entreprises, par exemple.
C'est tous les jours. Et quand on est travailleur, on la vit au quotidien, cette lutte de classe. On nous pousse encore une fois à travailler toujours plus. On nous reprend des minutes de pause. On nous vole des avantages sociaux. C'est tous les jours. Et là, c'est quand même on peut dire que la guerre patronale là est déclarée. Ces messieurs veulent s'en sortir indemnes de la crise, de leur crise. C'est eux qui en sont responsables, c'est eux les dirigeants de l'économie, c'est eux qui prennent les décisions. C'est d'ailleurs en vertu de cela qu'ils empochent quand même le magot. C'est leur crise, mais ils ne veulent pas l'assumer, ils la font payer aux travailleurs qu'ils veulent utiliser comme une variable d'ajustement. Du jour au lendemain, les licencier, les mettre dehors, du jour au lendemain, leur baisser leur salaire. Ça, c'est pas acceptable.
Nathalie Arthaud, une petite parenthèse, vous soutenez le gouvernement quand il réclame des impôts très importants à des sociétés comme Amazon ou Starbucks, ces sociétés qui font beaucoup de bénéfices en France et qui payent des impôts dérisoires.
Moi, je trouve ça extrêmement choquant que des entreprises, effectivement, comme Google, je crois que c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Je me demande si je suis pas même en dessous. Que ces entreprises-là arrivent à échapper effectivement à l'impôt. Je trouve ça absolument scandaleux. Et c'est pas que je soutiens le gouvernement, c'est que je trouve que ça serait la moindre des choses que ces gens-là payent des impôts quand même. Que ces entreprises-là, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, y compris la politique du gouvernement sur ce terrain-là, sur le terrain des niches fiscales, on voit que il a été extrêmement, il a manqué de beaucoup de courage, que toutes ces niches fiscales, elles sont finalement pas touchées. Et que, y compris ces grandes entreprises, ces grands groupes dont on sait qu'ils payent 8% d'impôts pour le CAC 40, 12% pour les entreprises de plus de 500, alors que la petite entreprise, elle, va payer ses 30% d'impôts sur les sociétés.
Hein. Donc vous défendez les petits patrons, Nathalie Arthaud.
Bah, en tout cas, c'est sûr que quand on les envoie en avant, en première ligne, en disant que les impôts sont trop élevés, c'est tirer les marrons du feu pour les gros. Et il ferait bien, effectivement, de se retourner contre les banques et contre ces gros qui, en réalité, les écrasent, les petites entreprises. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces grandes entreprises, y compris cette grande bourgeoisie, ces gens très très riches, ils ont effectivement mille et une façons d'échapper à l'impôt, et le gouvernement leur laisse encore les mains libres.
Et nous sommes de retour sur le plateau de Pluriel, l'émission politique de Radio Orient. Notre invitée, Nathalie Arthaud, porte-parole de lutte ouvrière. La dette de la France est un problème qu'on ne peut pas ignorer. Selon le député socialiste René Dosière, chaque heure qui passe, la France emprunte 22 millions d'euros et on paye 6 millions d'euros d'intérêt par heure. Comment, selon vous, peut-on sortir de ce cercle infernal de la dette ?
Oui, enfin, vous aurez remarqué quand même que malgré cette dette, le gouvernement n'est pas gêné de faire un cadeau de 20 milliards au patronat, hein, quand même. Donc vous voyez, quand le gouvernement nous dit qu'il faut payer la dette, que c'est la priorité des priorités, n'empêche, pour lui, il y a des dépenses qu'il n'est pas gêné de faire. Sauf que c'est justement, c'est ça que nous dénonçons. C'est que nous sommes absolument contre les dépenses d'argent public qui vont aller directement en fait dans les caisses du patronat, parce que c'est comme ça que vont terminer ces 20 milliards, parce qu'en réalité, ces 20 milliards, ils ne vont pas être investis.
Vous regrettez qu'il n'y ait pas de compensation à cette somme qui est accordée au patron ?
Moi, je regrette que les 20 milliards soient donnés, parce que les compensations, les contreparties, je n'y crois pas. Alors, et en plus, là, on voit un gouvernement qui, de toute façon, n'a même pas la volonté d'en fixer des contreparties. Donc, ces 20 milliards, en réalité, ils vont pas déboucher sur l'investissement. Et d'ailleurs, le patronat l'a déjà dit, en 2013, ils n'ont pas prévu d'investir. Ils n'ont pas prévu. Et puis, on le voit aujourd'hui faire. Ils ne pensent qu'à une chose, à licencier, fermer les usines, à mettre à la porte les intérimaires. Donc, ces 20 milliards, ils vont aller, effectivement, renforcer les coffres-forts des plus riches. Et ils vont pas aller ni à l'investissement et ni à l'emploi. Donc, effectivement, ça, ce sont des dépenses que nous pensons qu'il faudrait pas faire. Toutes ces dépenses-là. Et ça se chiffre, vous savez, tous ces plans de sauvetage aux banques, qui en réalité sont allés conforter les profits de la Société Générale, de la BNP Paribas. On n'a pas sauvé les banques, c'est les banquiers, c'est les actionnaires qu'on est allés sauver. Donc toutes ces dépenses, nous sommes contre. Nous sommes contre. Par contre, nous sommes pour toutes les dépenses qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les écoles, qui vont dans les transports collectifs. Aujourd'hui, dans la région parisienne, c'est plus possible de se déplacer correctement, parce qu'il faudrait faire des millions, si ce n'est pas des dizaines, voire des centaines de millions d'investissements. Bon, alors, ces dépenses-là, elles sont bonnes. Il faut les conserver et il faut enlever, effectivement, toutes les dépenses qui servent aujourd'hui le patronat. Voilà. Alors, nous, on n'a rien contre le fait de réduire la dette. On n'a rien. Mais supprimons toutes ces mauvaises dépenses, et faisons payer, effectivement, ceux qui ont de l'argent.
Alors, j'imagine, évidemment, que ce pouvoir n'est pas assez à gauche pour lutte ouvrière. Pour autant, 6 mois après l'arrivée au pouvoir de François Hollande, quelles sont les mesures que vous approuvez ?
Ah, alors là, c'est un problème. Enfin,
les emplois d'avenir, par exemple.
Oui, mais là encore, enfin, les contrats d'avenir, moi, je dis que c'est tant mieux pour tous les jeunes, effectivement, des quartiers populaires qui trouveront, j'espère, une porte de sortie, dans ces emplois-là. Et puis qui attendent, effectivement, de façon désespérée, un emploi, qui ont envie d'être utile. Et ça, moi, je suis élue à Vaux-en-Velin. Je travaille aussi, à Aubervilliers, dans la région parisienne, des jeunes qui n'attendent que ça, de trouver effectivement un emploi et de gagner leur vie. Il y en a des millions, et donc ça sera tant mieux pour eux. Maintenant, je pense que d'abord ils sont limités dans le temps, c'est un vrai problème. Combien y en aura-t-il au final ? En fait, on n'en sait rien. Et surtout, ce que je tiens à dire, c'est que c'est des emplois aidés, bon, qu'on utilise depuis toujours, et ce n'est pas ça qui enraye le chômage. Ce n'est pas ça qui enraye le chômage. Vous savez, même si on prend la fourchette la plus haute, les 500 000 prévus, vous vous rendez compte que chaque mois, il y a 50 000 chômeurs de plus. Donc, vous voyez, ça ne peut même pas enrayer quoi que ce soit. Donc, non, c'est pas comme ça qu'on peut combattre le chômage. Et moi, ce que je dénonce par rapport à cette politique du gouvernement socialiste, c'est qu'il n'y a pas de volonté de le combattre, ce chômage. Il n'y a même pas la volonté d'arrêter, de stopper l'hémorragie. Et stopper l'hémorragie, ça voudrait dire empêcher les licenciements, empêcher les fermetures d'usines. Ça voudrait dire déjà arrêter qu'on licencie.
Est-ce qu'Arnaud Montebourg a les moyens, en tant que ministre du redressement productif, d'empêcher les plans sociaux ? Est-ce qu'il a cette possibilité, cette capacité ?
Mais lui, il ne l'a pas parce qu'il ne veut pas utiliser de moyens coercitifs. Il veut pas utiliser la contrainte. Il veut rien imposer au patronat. Ce gouvernement ne veut pas forcer le patronat à faire quoi que ce soit.
Mais quand une usine n'est plus compétitive, justement, quand elle a fait de mauvais choix stratégiques comme PSA, est-ce que malheureusement, ça n'est pas une sorte de fait inéluctable que cette entreprise ne peut plus payer ses salariés ?
Alors d'abord, elles sont pas toutes dans le même cas, parce que je vous ferai remarquer quand même qu'il y a Sanofi. Qui
fait des bénéfices, en effet.
Lui se permet d'afficher 6 milliards et demi de bénéfices et qui a programmé des licenciements, et le gouvernement le laisse faire aussi.
Donc ça, l'interdire.
Mais oui, il faudrait l'interdire. Il faudrait interdire ces licenciements et interdire ces fermetures de centres. Mais à PSA, quand PSA nous explique que oui, il n'y a pas assez de voitures à produire, en gros, nous disons qu'ils répartissent le volume, la charge de travail entre toutes ces usines, qui diminue la charge de travail de chaque ouvrier, mais personne ne se retrouve à la porte. Alors, ça coûtera un peu d'argent à PSA. Oui, ça fera baisser son taux de profit. Oui, et alors, dites-moi, pourquoi on va forcer les travailleurs à sacrifier leur salaire, à sacrifier leur emploi, et pourquoi on ne dit pas à ces grandes entreprises qui sont quand même assises sur des montagnes de cash, qui ont des milliards de réserves, PSA lui-même se vantait d'avoir 8 milliards ou 10 ou 11 de réserves, eh bien nous devons leur dire, eh bien écoutez, vous utilisez cet argent pour préserver les emplois, pour garantir les emplois. Et si cet argent ne suffit pas, y compris qu'on aille prendre dans la fortune des actionnaires qui
la
se sont
Peugeot.
Enrichis. Eh ben oui, la famille Peugeot. Et pourquoi pas ? Moi, je trouverais ça tout à fait normal dans cette période de crise. Mais vous savez, ils n'en sont même pas là, en réalité. Parce qu'en réalité, ces entreprises ne sont pas au bord de la faillite. Ils ont effectivement des réserves. Le groupe PSA, il affiche des difficultés sur la filiale automobile. Mais en même temps, il a aussi une filiale Faurecia qui est très bonne, qui marche très bien, très fort. Il a mis ses œufs dans différents paniers. Donc voilà, il faut prendre sur cet argent pour conserver tous les emplois. Donc on interdit les licenciements de partout. Parce qu'il s'agit toujours de grands groupes, je vous fais remarquer. ArcelorMittal, Petroplus, Fralib, Candia, où les travailleurs essayent de se battre contre la fermeture de leur unité de production. Ce sont des grands groupes qui ont de l'argent, qui ont de quoi venir, voir venir, et donc il faut les obliger à prendre dans cette masse-là, dans cet argent-là, pour préserver l'emploi, le salaire, ce qui fait la vie des gens. Comment, moi ce qui me révolte, c'est que on explique à des travailleurs dont toute la richesse c'est justement leur salaire, leur emploi, qu'ils peuvent bien accepter 10% de moins, 20% de moins. Et pourquoi ne dit-on pas à ces maîtres de l'économie, à ces grandes familles bourgeoises, à ces grands actionnaires et à ces grands groupes, que c'est à eux de commencer par faire des sacrifices, s'il y a des sacrifices à faire?
Alors Nathalie Arthaud, justement, on a eu des sacrifices nouveaux à faire après la publication du rapport Gallois. Il y a actuellement des négociations sur le travail entre les partenaires sociaux. C'est pour l'instant très discret, mais c'est peut-être une bombe à retardement. François Bayrou a appelé le président de la République à prendre des mesures concernant le droit du travail et le temps de travail. Est-ce que vous redoutez une remise en cause des acquis dans le droit du travail ?
C'est clairement les objectifs du patronat. C'est clairement les objectifs du grand patronat. Il nous explique que c'est du donnant-donnant, ces accords.
Vous dites c'est du perdant-perdant ?
Non, je vois bien ce qu'on donne au patronat. Là, il n'y a pas de souci. Ils ont la possibilité de faire travailler 24 heures sur 24 les ouvriers, 7 jours sur 7. C'est ça que Renault a obtenu en Espagne, 7 jours sur 7. Voilà. Ils ont la possibilité de revenir sur des primes, de baisser les salaires en fonction des commandes. Enfin bon, c'est la flexibilité maximum, tout ça. Hein. Ils y avaient déjà les intérimaires, les CDD.
C'est le retour au 19e siècle pour vous ?
Ah ben en tout cas, de toute façon, moi je suis convaincue que le patronat, il a pas de limite, hein, dans la capacité à exploiter les travailleurs, hein. Il n'a pas de limite. Excusez-moi, mais les mêmes groupes, hein, qui prétendent effectivement être un peu plus évolués que le patronat du 19e siècle, les mêmes groupes, ils exploitent des travailleurs en Roumanie pour 700 euros. Hein, c'est des samedis travaillés gratuits. Voire ils exploitent dans d'autres pays des enfants sans que ça les gêne. Donc, de toute façon, il faut bien se dire, hein, quand on est travailleur, que ces gens-là, ils n'auront pas de limite. La seule limite qu'ils auront, ça sera notre réaction. Ça sera notre résistance. Ça sera le fait de dire, bah non, nous, on n'accepte pas ça.
Mais le mot que les patrons ont à la bouche pour justifier toutes ces mesures, c'est la crise. Est-ce que on dramatise la crise ? Est-ce qu'elle est moins grave qu'on nous le dit ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah, moi, je pense effectivement que ils ont fait monter toute une pression là-dessus. Bon, on a entendu effectivement Parizeau expliquer que c'était la panique, il y avait des marges bénéficiaires historiquement basses, qu'on était au bord de la syncope. Enfin bon, je sais pas. Il y a eu tout un cinéma autour de ça. Hein, encore une fois, moi je suis frappée de voir les mêmes nous expliquer que c'est tout à fait normal, hein, qu'ils continuent de verser 40 milliards de dividendes au CAC 40, qu'ils continuent avec les stocks options, qu'ils continuent avec les salaires faramineux des PDG, ce sont les mêmes qui nous expliquent ça. Hein. Donc si vous voulez, c'est quand même...
Il y a eu un effort fait sur les rémunérations des patrons d'entreprises publiques.
Ah bah oui, oui, il y a eu un à 20, c'est ça. Hein. Je ne comprends pas, je ne vois pas. Je trouve que ces écarts sont assez scandaleux, voilà, tout simplement. Alors je sais bien qu'aujourd'hui c'est 1 à 300, hein, mais ça fait partie de la folie du système, tout ça.
Vous pensez que le CDD va remplacer le CDI et que le statut aussi des fonctionnaires risque d'être modifié dans les années qui viennent ?
Bah, c'est déjà le cas dans les entreprises privées déjà depuis pas mal de temps. Vous savez, quand on parle beaucoup de l'automobile sur les chaînes de montage des usines automobiles, il y a presque plus que des intérimaires ou des CDD maintenant sur les chaînes de montage. Enfin, c'est un nombre incroyable. Alors, dans les entreprises privées, c'est déjà le cas. Hein, les CDD, les intérimaires, les petits boulots, les temps partiels, tout ça, ça s'est multiplié évidemment. Et même dans la fonction publique. Écoutez, à la Poste aujourd'hui, il y a quasiment que des contrats privés. C'est plus des fonctionnaires, c'est des contrats privés, des CDD, mais dans l'éducation nationale aussi.
Voilà, vous êtes enseignante, il faut le dire à nos auditeurs.
Voilà, je suis enseignante et il y a aussi de plus en plus de contrats privés, de CDD, de vacataires, de statuts précaires en fait, de plus en plus effectivement. Et ça, c'est encore une fois cette politique, hein, de chercher à faire des économies sur le dos des travailleurs et il faut le combattre effectivement à tous les niveaux, y compris au niveau de la politique de l'État, parce que y compris la politique, hein, du gouvernement, c'est clairement, hein, de dépenser moins en salaire de fonctionnaires. Hein. Ils nous ont expliqué que dans la mesure où ils allaient garder le même nombre de fonctionnaires, eh bien, il n'y aurait pas d'augmentation de salaire. Mais ça fait déjà des années que l'indice des fonctionnaires n'est pas augmenté et il y a des petits salaires dans la fonction publique.
Et en même temps, est-ce que vous pouvez comprendre que ce gouvernement n'a pas l'argent nécessaire ? S'ils avaient de l'argent, ils pourraient augmenter les salaires.
Eh bien, non, je ne peux pas le comprendre, ça. Je ne peux pas le comprendre et je ne veux...
Vous dites, prenons dans la poche des patrons.
Écoutez, on est un pays riche. Excusez-moi, mais on est un pays riche qui a accumulé des richesses. Il y a du progrès. C'est quand même pas normal de voir une frange, une minorité seulement de la population progresser et qu'on serve à tout le reste de la population ce discours, hein, nous disant que il y a plus de sous, il y a plus d'argent, les poches sont vides.
Alors,
ça c'est pas vrai.
Vous dites que le gouvernement donne trop aux patrons. Là, il y a peut-être une bonne nouvelle qui est arrivée, c'est que Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, a terminé sa grève de la faim jeudi devant l'Assemblée nationale. Il réclamait 5 millions à l'État pour continuer à faire vivre sa ville. Il a obtenu satisfaction. Que vous inspire le combat de Stéphane Gatignon ? Vous lui dites bravo.
C'est le combat que mènent beaucoup de maires, d'élus des villes pauvres.
Vous êtes élu à Vaux-en-Velin.
Bon, on connaît absolument la même situation des problèmes de financement en permanence, effectivement, parce que dans toutes ces communes très pauvres, il y a à la fois très peu de recettes et en même temps beaucoup de charges parce que effectivement il faut des écoles, c'est souvent des communes qui sont
beaucoup de prestations sociales en fait dans ces villes, puisque il y a beaucoup de personnes en précarité justement.
Et c'est souvent aussi des communes qui construisent justement des logements sociaux, qui ont quand même aussi à cœur qu'il y ait des logements construits pour que toutes les familles, y compris les plus pauvres, y compris les familles de chômeurs, aient un toit à se mettre sur la tête. C'est aussi ça, parce que toutes ces communes, c'est aussi des communes où il y a de la construction de logements accessibles aux familles populaires. Alors évidemment, ça veut dire aussi des enfants, ça veut dire des écoles, il faut des infrastructures, il faut des équipements, il faut tout ça. Et évidemment, on voit les dotations à la fois de l'État qui diminuent, mais y compris toutes les dotations qui peuvent venir, par exemple, de la caisse d'assurance familiale, qui diminue aussi pour les crèches, pour les centres sociaux. Donc c'est effectivement des problèmes sans fin. Et la dotation globale de fonctionnement que l'État attribue aux communes, elle va diminuer. Le gouvernement l'a dit. Elle est gelée en valeur. Elle est gelée en valeur, c'est-à-dire qu'elle va pas évoluer avec l'inflation, ce qui veut dire une baisse. Déjà pour 2013 et pour 2014 et 2015, c'est 750 millions en moins. Donc l'enveloppe globale, elle va encore diminuer. Alors, le gouvernement dit, oui, mais on va rétablir l'égalité, on va mettre en place des systèmes de péréquation, on va donner plus aux communes pauvres. Bon, peut-être, mais le véritable problème, c'est qu'il fait diminuer l'enveloppe globale, c'est-à-dire qu'en fait, les réductions de dépenses publiques, il les fait payer aux collectivités locales. Voilà, c'est aussi ça, cette politique d'austérité. Ça veut dire qu'il y aura moins de sous pour les régions, pour les départements et pour les communes, et y compris pour les communes populaires.
Vous diriez que les Français aujourd'hui s'appauvrissent, qu'ils vivent moins bien qu'il y a 20 ans par exemple?
C'est pas moi qui le dis, tous les rapports le disent, le Secours catholique l'a très bien dit dans son dernier rapport, Emmaüs le dit, le Secours populaire, enfin les Restaurants du Cœur, chaque année quand ils nous donnent leurs chiffres, on voit très bien que la pauvreté elle monte. Et que la pauvreté elle monte y compris pour des travailleurs, des gens qui ont un travail. Des femmes qui ont un petit boulot, qui travaillent à temps partiel ou
qui renoncent parfois à se soigner.
C'est à tous les niveaux. Effectivement, l'appauvrissement, il a des conséquences absolument à tous les niveaux. Effectivement, pour se soigner, pour se chauffer aussi.
Les précaires énergétiques.
Il y a des gens qui ne chauffent pas, qui chauffent pas suffisamment leur logement. Mais il y a même des gens qui ont du mal à payer leur facture d'électricité. Donc, bien sûr que ça ne peut pas être autrement. À partir du moment où le chômage explose, ça peut pas être autrement. Et alors si là-dessus, il faut accepter des baisses de salaire, donc ça sera une catastrophe sociale. Alors il n'y a pas de raison d'accepter une catastrophe sociale dans un pays riche comme le nôtre. Il n'y a aucune raison. Et il faut absolument que l'argent qui existe dans la société, eh bien, il serve à remonter la pente.
Nathalie Arthaud, changeons de sujet. Le gouvernement semble hésiter à accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales, car il faudrait une cinquantaine de voix parmi les parlementaires de l'opposition, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme l'a rappelé François Hollande. Est-ce que vous redoutez l'enterrement de cette promesse qui date déjà de François Mitterrand ?
Oui, il semble clair effectivement que le gouvernement l'a enterré. C'est révoltant. Moi, je trouve ça révoltant parce que à chaque fois, effectivement, il nous le promet. À chaque fois, il fait campagne là-dessus. Et puis, au bout du compte, il recule.
Mais en même temps, c'est une question d'arithmétique. Il n'y a pas assez de parlementaires de gauche à l'Assemblée et au Sénat.
Mais il faut se battre. Et je suis désolée, mais moi je l'entends pas se battre. J'ai écouté Hollande, mais est-ce qu'il a dit, il a pris position, est-ce qu'il a défendu ce droit de vote des résidents étrangers? Non, non, on les voit pas monter au créneau, on les voit pas s'appuyer, y compris sur la population, la fraction, en tout cas la population qui est favorable à ce droit de vote.
Il y a Jean-Christophe Cambadélis qui a lancé une pétition qui a eu beaucoup de succès.
Ah, bah, écoutez, il faudrait qu'il multiplie ça, il faudrait qu'il fasse une véritable... Moi, pour les croire de bonne foi... il faut que je les voie se battre, et c'est pas le cas. La réalité, c'est que c'est pas ça. C'est qu'effectivement, ils ont pas ce courage-là.
Pourquoi ?
Parce que tout simplement, ils ont pas de courage en général, les socialistes au pouvoir. Ils n'ont pas de courage. Ils ont pas le courage de s'opposer au patronat, au mur de l'argent, mais ils n'ont pas non plus de courage pour s'opposer à la droite. Hein, pour s'opposer à leurs adversaires de droite. Donc voilà, c'est sans cesse de la lâcheté, c'est sans cesse des reculs. Qu'est-ce que ça leur coûterait, hein? Au moins ils pourraient faire cette démonstration là, au moins ils pourraient faire progresser les consciences quand même, c'est la moindre des choses, le droit de vote, hein, à des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui participent à l'économie du pays, qui souvent sont les soutiens, hein, de l'économie, qui ce serait normal de leur donner le droit de vote. Et moi, je pense que c'est un déni de droit. C'est un déni de droit. Et ça, on doit pouvoir le faire comprendre. Et on doit pouvoir effectivement emporter l'assentiment de la population là-dessus, à condition de le vouloir, de vouloir monter au créneau, de vouloir se battre. Et ça, les socialistes ne veulent pas. C'est des questions électoralistes, c'est de la lâcheté.
Vous êtes toujours sur Radio Orient, dernière partie de Pluriel avec Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière. Alors à l'occasion du duel pour la présidence de l'UMP, on a parlé de la droite tout à l'heure, Nathalie Arthaud, Jean-François Copé a choqué avec ses propos sur le racisme anti-blanc et les pains au chocolat. On se souvient aussi de cette opération coup de poing de militants d'extrême droite contre la mosquée en construction de Poitiers. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la France, petit à petit, est en train de céder à l'idéologie de l'extrême droite?
Oula, quand même. Non, je pense que c'est un... c'est sûr que c'est un danger que les idées d'extrême droite... Et on le voit, les idées d'extrême droite progressent, et y compris dans les milieux populaires, y compris parmi les travailleurs. Bon, nous, ces idées-là, on les combat. Hein, il s'agit pas de le regretter, ou il s'agit de les combattre, parce que ces idées-là, c'est effectivement un poison pour les travailleurs, parce que c'est diviser les travailleurs. Et quand on divise les travailleurs, alors qu'ils ont à se battre le plus unis possible, le plus ensemble possible, pour justement résister, hein, contre ces attaques sur les salaires, sur les emplois, eh bien, quand on divise les travailleurs, eh bien, on fait le jeu du patronat. Voilà. Donc, ces idées-là, c'est effectivement un poison, et nous, on fera tout pour les combattre.
L'UMP, et particulièrement Jean-François Copé et ses amis de la droite forte, jurent qu'il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. Est-ce qu'on doit les croire ?
Écoutez, ça on verra, mais vous savez, c'est même pas... c'est pas seulement les alliances électorales. Écoutez, de toute façon, ils vont déjà dans leur sens. Hein, tout dans leur politique conforte les préjugés, justement, les préjugés racistes, les préjugés contre les musulmans. Bien sûr, déjà ils font le jeu de Marine Le Pen d'ores et déjà, et c'est ça qui est grave. Et je tiens quand même à dire que la droite effectivement, elle sert la soupe à Marine Le Pen, mais la gauche aussi dans une certaine mesure.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Eh bien, parce que les idées nationalistes, les idées protectionnistes, l'idée qu'on nous met dans le crâne que nos adversaires, c'est les travailleurs des autres pays, c'est l'étranger, hein, ce sont les Chinois, quand on va construire une usine au Maroc, c'est un gros problème pour les travailleurs français, parce que ça donne du travail aux Marocains et pas aux travailleurs français. Vous voyez cette politique-là qui consiste à opposer les travailleurs les uns contre les autres, c'est aussi... une petite musique qu'on entend à gauche, avec toutes ces idées sur le protectionnisme, sur la concurrence internationale, etc. Et donc, c'est un ensemble, effectivement, qui conforte, hein, qui conforte ces préjugés. Et je crois que la gauche, y compris, hein, à la gauche, il y en a qui ont une responsabilité importante là-dedans. Nous, on tient à prendre le contre-pied de tout ça, justement. Et à dire que non, les travailleurs, ils ont les mêmes intérêts en France quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit la couleur de leur peau, ils ont les mêmes intérêts, ils travaillent souvent ensemble, ils sont payés à coups de lance-pierre, hein, les uns comme les autres, et donc il faut qu'ils se battent ensemble. Et les travailleurs ont en fait des intérêts communs, y compris à l'échelle internationale. Hein. Et les frontières, il faut pas qu'on accepte, hein, qu'on nous mette des frontières dans la tête, hein, parce que la réalité, c'est qu'il faut qu'on soit au contraire dans un même combat.
Nathalie Arthaud, comment expliquez-vous la montée de l'islamophobie ? C'est quand même le phénomène de ces dernières années.
Bah, qu'est-ce que vous voulez ? C'est vrai que l'extrême droite, mais d'autres aussi, la droite, voire hein, les socialistes, ont utilisé les conséquences de la crise, les difficultés au quotidien, pour nous montrer de faux adversaires, hein, pour faire croire que le problème, c'est l'immigré, le problème, c'est le voisin, le problème, c'est l'étranger, etc. Alors évidemment, dans un contexte...
Mais avant, dans le discours de Marine Le Pen, c'était vraiment un discours anti-immigré. Aujourd'hui, ce discours anti-immigré se déplace sur la question religieuse sous le prisme de la laïcité. Comment vous expliquez justement que ce soit les musulmans qui soient les boucs émissaires de la société française ?
Oh bah, je crois que Marine Le Pen, elle utilise, elle surfe sur effectivement des préjugés.
Mais il n'y a pas qu'elle d'ailleurs.
Non, c'est vrai, il n'y a pas qu'elle. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il se trouve que effectivement une grande partie des immigrés sont musulmans, donc c'est une façon aussi, voilà, d'être contre les immigrés en général. Bon, alors elle attaque, c'est vrai, particulièrement l'islam. Bon, moi je le dénonce, hein, parce que pour moi il n'y a pas de, je fais pas de différence entre les religions, hein, mais voilà, ça fait partie, elle, de ces ça fait partie de son credo. Alors bon, et puis là-dessus, elle avance. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut absolument prendre le contre-pied de tout ça, c'est évident.
Le Sénat a adopté définitivement, il y a quelques jours, la proposition de loi socialiste qui fait du 19 mars la journée nationale du souvenir en mémoire des victimes de la guerre d'Algérie. La gauche a défendu un texte qui, selon elle, rassemble et rend hommage à toutes les victimes du conflit. La droite dénonce, elle, un texte de division et accuse la gauche d'instrumentaliser l'histoire avant le voyage du président Hollande le mois prochain en Algérie. Vous, qu'est-ce que vous répondez à la droite qui ne veut pas que l'on reconnaisse les crimes de la guerre d'Algérie ?
C'est très choquant, voilà, c'est extrêmement choquant. Bien sûr qu'il y a des crimes, des massacres à reconnaître, à commencer par le 17 octobre quand même, 61, ça c'est évident.
François Hollande a reconnu cette répression.
Il l'a reconnu
du bout des lèvres.
Voilà, du bout des lèvres, hein, du bout des lèvres, il l'a reconnu.
Par un communiqué de l'Élysée.
Oui, voilà, qui devait effectivement préparer sans doute sa tournée en Algérie, mais je crois que c'est quand même du bout des lèvres, et je crois que là encore, les socialistes sont quand même un peu, sont timides. Hein, sont timides par rapport à tout ça, et qu'ils devraient, oui, reconnaître que l'État français a commis une guerre infâme. Une guerre infâme, et a quand même, au travers de la colonisation, fait endurer des souffrances, hein, à exploiter tout un peuple, ses richesses, et ça, effectivement, il devrait le reconnaître. Alors, il le fait pas bien, hein, il le fait du bout des lèvres, aussi parce que je crois qu'il a une responsabilité très grande dans cela. Je rappelle quand même que le Parti Socialiste a une responsabilité très grande dans la guerre d'Algérie, hein. Guy Mollet s'est en fait élire quand même, hein, sur la base de l'arrêt de la guerre, et en réalité il l'a continué, et même il l'a renforcé, je crois que ils ont une responsabilité
Le Parti Socialiste n'est pas très à l'aise sur la guerre d'Algérie, c'est ce que vous dites?
Encore, bien sûr, encore. Et quand on voit que, y compris, sont en train de discuter de ramener de transférer les cendres de Bijard, hein, à Fréjus,
ça vous choque?
De rendre hommage effectivement à un tortionnaire et à un massacreur, oui, ça me choque énormément. Ça me choque énormément. Voilà, les gens qu'ils ont envie de saluer, bah moi ça c'est des gens, c'est un appareil d'État, c'est toute une qui a fait le sale boulot et qu'il faut évidemment qu'il faudrait dénoncer en réalité.
Et qu'est-ce que vous avez pensé du bras d'honneur de Gérard Longuet aux autorités algériennes quand on l'a interrogé sur la reconnaissance des crimes commis par la France en Algérie?
Bah, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup à gratter, hein, le vernis, le vernis politicien, hein, d'un ancien ministre, pour retrouver le partisan d'extrême droite qu'il a été dans sa jeunesse.
Une petite parenthèse, je sais qu'il y a une Nathalie Arthaud algérienne, c'est Louisa Hanoun en Algérie. Vous avez des contacts avec elle, avec les travailleurs algériens?
Non, nous n'avons pas de contact et je ne crois pas me reconnaître dans la politique, y compris qu'elle mène. Non, pas spécialement. Et je pense effectivement que les travailleurs algériens, comme les travailleurs tunisiens ou marocains, ils se reconnaissent sans doute dans la lutte syndicale, dans la lutte, enfin j'espère en tout cas, dans les aspirations que moi j'ai, hein, à combattre le patronat. Mais je suis pas sûre que Louisa Hanoun soit dans cet esprit-là.
Nathalie Arthaud, je sais que vous êtes très attachée aux droits des Palestiniens. Comment réagissez-vous à l'offensive actuelle contre la bande de Gaza? Benjamin Netanyahou, qui est en campagne électorale, se justifie en disant qu'il faut mettre un terme aux tirs de roquettes contre le territoire israélien.
Je crois que c'est, on le voit déjà depuis plusieurs semaines, Netanyahou a une politique va-t-en-guerre. Une politique va-t-en-guerre, et c'est sans doute lié aux élections législatives qui vont avoir lieu
le 22 janvier.
Le 22 janvier, c'est ça. Et c'est très grave. C'est très grave parce que c'est renforcer la terreur qui s'abat aujourd'hui effectivement sur Gaza, en Palestine, en Cisjordanie. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Hein, le blocus déjà de la bande de Gaza, privé quand même plus d'un million et demi d'habitants de la nourriture nécessaire, des moyens de survivre dignement, c'est déjà en soi scandaleux. Mais en plus, les bombarder, hein, et renforcer la pression, tourner les chars, hein, comme pour bien montrer qu'on est prêt à recommencer finalement ce qui s'est passé en 2008 avec plomb durci, où il y avait eu quand même 1500 morts. Hein, du côté palestinien, c'est une politique qui est intolérable.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la récente visite de Benjamin Netanyahou en France?
Bah écoutez, j'ai pensé qu'il est venu faire sa campagne encore une fois, et c'est vrai que finalement Hollande lui a quand même offert une belle tribune, et c'est quand même là encore c'est assez révoltant, et c'est vrai que moi je me dis quand même que on entend beaucoup l'État israélien expliquer qu'il faut absolument qu'il se défende, hein, qu'il protège ainsi la population israélienne. Mais moi, je me dis que non, c'est une politique au contraire qui va à l'encontre des intérêts des Israéliens. Parce que quand même, en menant cette politique-là d'affrontement, va-t-en-guerre, hein, de souffrance, de privation qu'ils imposent au quotidien à tous les Palestiniens, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne se font pas d'amis du côté des Palestiniens. Hein. Donc c'est pas comme ça qu'il peut y avoir effectivement une perspective pour la population israélienne. Donc non, c'est un État et une politique qui est vraiment une politique il met de l'huile sur le feu. C'est une politique qui est une impasse, et j'espère qu'elle sera y compris dénoncée par une partie des Israéliens.
Mahmoud Abbas doit se rendre lui aussi en France bientôt, avant d'aller à New York le 29 novembre, où il demandera que la Palestine accède au rang d'État non membre de l'ONU. Est-ce que la France doit soutenir la démarche palestinienne, même si cela déplaît aux États-Unis?
Moi, je crois, oui, bien sûr qu'il faut soutenir. Enfin, De toute façon, le gouvernement le fera pas. J'ai entendu Hollande expliquer qu'il fallait d'abord qu'ils discutent entre eux. Enfin bon, donc j'ai bien compris que le gouvernement, y compris, n'était pas sur ce terrain-là. Mais voilà, quand on est du côté des opprimés, quand on est du côté des exploités, c'est une évidence qu'il faut aller dans le sens de la reconnaissance des droits des droits démocratiques, des droits à ce que les Palestiniens accèdent à un véritable État. Ça me semble être une évidence. Et la réalité, c'est que c'est tout le contraire qui se passe. Avec la colonisation qui continue, avec cette oppression de plus en plus importante de l'État d'Israël, c'est l'inverse qui se passe.
Et dernière question, qu'est-ce que vous attendez de la France sur la question syrienne? François Hollande a reconnu la coalition nationale qui représente l'opposition syrienne. On envisage désormais peut-être de protéger les zones libérées. Qu'est-ce que vous attendez précisément de la France?
Rien. Oula, je me dis, qu'est-ce qui nous concocte là, hein? Qu'est-ce qui nous concocte? Alors, ils ont trouvé la coalition à leur goût. Alors, elle est dirigée, je crois, par un imam d'un côté, par un homme d'affaires de l'autre. Bah, les intérêts des pauvres vont être bien défendus avec ça. Non, qu'est-ce qui nous concocte? C'est ça que je me demande. Parce qu'à chaque fois que les puissances impérialistes, que ce soit la France ou les États-Unis, se mêlent de la politique dans ces pays-là, c'est toujours pour leurs intérêts.
Donc on laisse
eux,
le peuple syrien à son
eux.
Sort. On
moi
laisse
je suis solidaire.
Le peuple syrien face à Bachar el-Assad.
Vous savez, je suis solidaire moi de tous ceux qui essayent effectivement de se battre pour leurs droits, qui se battent contre l'oppression, contre la misère, contre ce régime infâme de Bachar el-Assad. Moi je suis solidaire d'eux, mais je ne pense pas effectivement qu'ils aient quoi que ce soit un quelconque soutien à trouver du côté de la France, qui quand même, je le rappelle, a une longue histoire dans la région, et y compris la France qui a quand même occupé la Syrie entre les deux guerres et qui a participé à ce que cette région, eh bien, elle soit divisée, à ce que finalement ça devienne une poudrière. Moi, je vois les responsabilités de l'impérialisme français dans cette région et je sais qu'à chaque fois qu'ils interviennent, c'est jamais pour défendre c'est pas pour défendre les peuples, c'est pas pour les beaux yeux des peuples, ça c'est pas vrai. Donc je n'ai que de la méfiance vis-à-vis de ce que pourrait faire aujourd'hui la France en Syrie.
Merci Nathalie Arthaud, bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, le club de la presse de Radio-Orient. Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.